bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Voix de Fait, c'est l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Cette semaine, grosse délégation. Vous êtes en compagnie de Nicolas.
Et Guillaume.
Et Jenny.
Et Farouko.
Puis ben là, il y a plein d'êtres silencieux en arrière de Farouko. Donc, on a beaucoup de stock cette semaine. On va parler des métrobus, tiens, pourquoi pas.
Alors, on va parler de cas de rapaille et d'inutilité de cette chose. Sinon, on va parler aussi de ce grand crosseur qui est Lucien Bouchard et de son œuvre.
Ouais, tant qu'à parler de Lucien Bouchard, on va peut-être aussi parler, si ça nous tente, pas sûr, du SPQ Libre et de son expulsion du PQ. On va avoir une entrevue avec Olivier Poulain du GLBT Québec sur, l'état de la lutte contre l'homophobie dans la grande région de Québec. Enfin, l'état de la situation. Puis, évidemment, on a des nouvelles internationales.
On va parler du Conseil de l'éducation du Texas qui a décidé de réviser les manuels d'histoire et de mettre plus l'accent sur les héros de la droite religieuse.
Et dépendamment de la longueur de l'entrevue, on va peut-être aussi pouvoir parler de police à Montréal, mais aussi surtout à Londres et même le FBI qui veut être notre ami Facebook, semble-t-il. Donc, tout ça en une heure sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. On a même de la musique.
Ouais, je vais laisser Guillaume la présenter.
Ouais, ben en fait, c'est le nouvel album des Vulgaires Machins. La chanson, je me rappelle pas du titre exact.
J'ai choisi Le Mythe de la Démocratie.
Le Mythe de la Démocratie, c'est ça. Une chanson assez critique, en fait, là, je dirais. Critique politique qui rentre pas mal dedans comparé, mettons, à leur dernier album qui était plus soft et plus...
plus vendeur. Plus
vendeur, effectivement. Mais lui, ils reviennent un peu plus aux sources. Fait que c'est ça, Le Mythe de la Démocratie, les Vulgaires Machins.
Pourtant, mais la pression qu'ils ont là. Domine exodi, orationem meam. Dominus vobiscum, et spiritus sanctus. Amen.
Vous écoutez, Voix de Fer.
Ah bah, c'était bon, hein.
Oh oui, mais c'était court.
Eh oui, comme l'indicatif le disait, vous écoutez Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Et comme on est à Québec, on va parler de métrobus, parce que les métrobus, il n'y en a pas ailleurs. Dans le plan de développement de du RTC, du réseau de transport de la capitale, il y a des nouveaux métrobus. On a déjà vu le 802 qui se déploie depuis presque un an maintenant.
Dont l'autobus était prêt avant les abribus.
Ben oui, et puis là, on nous parle du 803.
Oh.
Qui progresse. Vendredi dernier, on a appris que le chantier du métrobus 803, qui va remplacer le trajet 60 par un parcours à plus haute fréquence, va débuter en fait ce printemps. C'est une bonne nouvelle qui a été applaudie par Accès Transport Viable, l'espèce de groupe de promotion du transport en commun et de défense des droits des usagers. Sauf que Accès Transport Viable, comme c'est souvent le cas avec la mairie de Québec, se pose des questions sur la perspicacité de nos élites quant au développement du transport en commun. Entre autres, on se demande pourquoi est-ce qu'on va faire un développement sur le boulevard Le Bourgneuf, sur les côtés, et non pas sur le centre du boulevard Le Bourgneuf, parce que en fait on a des réserves là sur certains aspects, entre autres sur le choix de construire des voies réservées à droite de la chaussée.
Nettement moins respecté, nettement moins efficace.
Écoute, ils ont fait un petit calcul, il y a une distance d'environ 2,5 kilomètres qui sépare la rue Decelle et la rue Pierre-Bertrand. Et le boulevard Pierre-Bertrand, c'est ça? C'est un boulevard. Et là, ils ont compté 25 intersections ou entrées de stationnement qui nécessitent des virages à droite sur ce trajet-là, dont des stationnements qui ont plusieurs milliers de cases de stationnement dedans. Et ils disent...
Peu fréquentés, quoi.
Peu fréquentés, de toute évidence. Et ils disent que ça va être problématique parce que les voies réservées risquent de se transformer en voies d'attente pour rentrer dans les stationnements. Et ça va ralentir.
La police de Québec fait vraiment pas respecter ça. En tout cas, pas en ville. Peut-être, non. Je sais pas en banlieue, là, mais en ville. Là.
C'est difficile. Et ils disent aussi qu'en plus, on veut mettre des voies respectées aux heures de pointe. Puis ils disent le problème de circulation sur le Bourgneuf, il n'est pas nécessairement aux heures de pointe.
Non.
Tu vois, il est à d'autres moments, donc ça prendrait des voies 24 sur 24. Et eux, ce qu'ils disent, c'est le boulevard est large, les voies sont surdimensionnées, il y a un immense terre-plein au milieu. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un développement avec des voies réservées au centre de la chaussée? Pour pouvoir faire un vrai métrobus, un busway.
Mais ils n'ont pas compris. Il fallait faire comme si c'était l'idée à la bombe.
Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Et donc, ils se posent la question là-dessus. Puis ils se posent plusieurs questions, en fait, Accès Transport Viable. Ils ont même mis sur pied un groupe, là, Québec en mouvement, pour promouvoir le transport en commun. Il y a des questions à se poser là-dessus. Entre autres, sur le fait que, on étudie peu, on le traite pas comme un plan d'ensemble, on étudie peu en fait le développement du transport en commun. De plus en plus, on le voit comme à la pièce. Et là, le nouveau dada, c'est qu'on va se servir de la candidature de Québec aux Jeux olympiques comme alibi pour faire financer le développement du transport en commun par le gouvernement provincial et fédéral.
C'est pas un choix de Régis, ça. Ça a été imposé. Ça a pas sorti beaucoup des médias, mais Monsieur Labeaume, il s'est fait revirer de bord comme un gamin par le comité organisateur olympique en disant... Tu sais, comment tu veux qu'on fasse ça dans une banlieue éternelle sans transport en commun?
Effectivement. Et on me faisait remarquer il y a peu de temps qu'en 40 ans, la ville de Québec a doublé sa population, mais a multiplié par 20 sa superficie urbaine. Donc, ça donne une idée de la problématique. Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de questionnement-là, vous pouvez aller sur le site d'Accès Transport Viable qui regorge d'informations, mais surtout sur le site de Québec en mouvement. Vous tapez Québec en mouvement dans Google, entre guillemets, et vous allez tomber là-dessus. Ils ont même un groupe Facebook, puis tout. C'est vraiment intéressant, surtout que là, actuellement, on est en train, semble-t-il, avec une espèce de comité sur la mobilité durable. On est en train, en fait, de penser à quelle réforme on pourra faire au système de transport en commun. Et on risque d'être pris avec les décisions d'aujourd'hui pendant 20-30 ans. Fait qu'aussi bien prendre les bonnes décisions autant que possible.
C'est mieux de prendre une couple de mois de plus, mais que ça marche.
C'est ça. Comme dirait M. Labeaume, on peut pas se planter.
Mais non,
on est en train de se planter avec la publicité.
On est en train de se planter d'aplomb, surtout que, dans le fond... En fait, on parle de l'histoire de Clotaire Rapport, là, l'espèce d'ex-pseudo-expert engagé par Régis Labeaume pour décoder le code de Québec.
Oui, mais il était plus sûr que c'était son idée, Régis. Là.
Ah, il est plus sûr. Ben, j'espère qu'il est plus sûr parce que c'est vraiment
Paul,
loin
c'est
d'être
Paul, c'est
mauvaise...
la faute de Paul. C'est Paul Québec Chaudière-Appalaches. Ouais, c'était l'idée ça. De Paul Québec Chaudière-Appalaches.
C'était eux. C'était plus lui trop. Là. Il okay. est comme plus sûr. Là.
Bon, en tout cas, on va dire l'administration municipale d'abord, tu sais, pour comme pas accuser personne sans preuve, tu sais, ou sans être sûr bon. De ce qu'on dit. Mais en tout cas, bref, le contrat de Lothaire Rapaille, ça semble assez étrange là, comme les résultats que ça va donner. Parce qu'en fait, ce qu'il défendait, ben, il défendait un peu son travail devant des groupes de journalistes puis d'attachés de presse la semaine dernière. En disant là, moi là, ce que je vous fais là, c'est juste comme la moitié du travail. Moi, je vous amène le code, puis après ça, c'est à vous là de travailler pour comme vendre quelque chose, puis faire quelque chose avec ça.
Ouais, fait que si vous plantez, c'est de votre.
Ouais, c'est ça. Mais là, sauf que le détail là-dedans aussi, qui est quand même somme toute important, c'est que les autres expériences du genre que lui a fait, comme par rapport à Dubaï et Hong Kong, entre autres, là, puis, et Singapour, en tout cas, dans l'article de journal, on nomme ces trois villes-là, je sais pas s'il y en a fait d'autres, mais les codes qu'il a trouvés à ce moment-là, c'était à la demande de grandes entreprises. Puis ces entreprises-là ont payé un prix de fou pour avoir le code, mais c'est pas quelque chose qui est public comme à Québec. Fait que dans le fond, c'était clairement dans une optique de vendre quelque chose à des gens. T'sais, dans le fond, ils voulaient percer le marché d'une ville, puis ils ont payé cet expert-là pour trouver comme les habitudes de vie et tout des gens comme ça.
Okay, ils n'ont pas vendre la ville à des gens de l'extérieur.
Exactement. C'est
léger détail.
Ouais, léger détail, c'est ça. Fait que là, ce qui semble ressortir de ça, c'est que Québec va être... on va être exposé comme ça avec... une espèce, ben c'est ça va être gratuitement donné à toutes les entreprises du monde pour dire venez ici vendre n'importe quoi, venez
si
vendre vos affaires.
Si vous voulez vendre des cossins au Québec, faut mettre du cuir dessus.
Ouais.
Du cuir.
Ouais, pas du compte t'es sadomaso.
Ah ouais, c'est ouais, vrai. C'est... névrosé aussi.
Ouais,
quel tissu va avec un névrosé?
Des pelules.
Du cuir
avec
des...
de l'industrie pharmaceutique.
Du cuir avec des pelules.
Ça tombe bien, il y en a déjà une partie ici. Mais en tout cas, pour aller plus loin encore, il y avait un article ce matin dans Le Devoir qui interrogeait un expert vraiment par rapport qui lui s'intéresse à la compétitivité des villes et par rapport au management là qui appelle des nations, des villes et des régions. L'expert en question, Simon Anholt, dit que dans le fond ça changera absolument rien à l'image comme telle de la ville qu'elle va projeter à l'extérieur, cette étude-là. Je veux dire, il dit clairement, dans le fond, que entre ça, puis agir pour faire justement des choses concrètes comme avoir un transport en commun qui est efficace ou comme faire vraiment des gestes environnementaux, faire des choses, tu sais, comme...
avoir l'air d'une vraie ville.
Ouais, c'est ça, exactement, tu sais, qui a une qualité de vie intéressante puis que t'es pas pogné dans un mouchon de circulation constamment, ben... tant que si t'as pas ce genre de choses là qui rayonnent puis qui se parlent puis qui, tu sais, puis qui se fait sur le long terme, le moyen long terme, tu sais, qu'il faut que ça rayonne, ben y a rien qui peut être fait avec une étude de ce genre là. Puis en fait, lui, ce qu'il dit, le seul aspect intéressant, c'est que si lui était politicien comme le maire, mettons, là, ben il voudrait avoir ce genre d'études là pour comprendre comment que les gens pensent puis comment que les gens agissent dans sa ville.
Ah non.
Pouvoir se faire réélire.
Exactement. Fait qu'on vient de trouver, un autre.
C'est ça qui est autoritaire de maire.
Ouais, il est là, quoi, 82%, c'est pas assez.
Ben non. C'est parce que ça peut s'effriter à la longue s'il connaît pas le code.
Ouais, mais si ça s'effrite, c'est parce qu'il est cave.
Ah, ça, c'est un autre problème.
Donc, on va y aller tout de suite avec les oui. nouvelles plus provinciales ou nationales. Ouais, ben vas-y donc. Okay.
Bon, allons-y. Ben, en fait, moi, ce qui a attiré mon attention la semaine dernière dans un article du Devoir, c'est qu'il disait que après l'UQAM, ben la STM pourrait être la prochaine à devoir verser entre 2,5 et 3 millions à Lucien Bouchard et sa firme d'avocats. Le bureau d'avocats Davies, Ward, Phillips and Weinberg, dans le fond, qui est la firme qui sert un peu de médiatrice dans les dossiers. Bon, à l'UQAM, c'était par rapport à Buzac, là, dans le dossier de l'îlot voyageur, là, l'espèce de squelette de bâtiment qui est dans cet état-là depuis 4 ans à peu près.
Ils n'ont pas commencé à faire le coup avec.
Ah, ils ont peut-être recommencé, j'avoue, ça fait un petit bout, je suis pas allé à Montréal non plus, mais en tout cas, ça reste que ce chantier-là, puis la question avec l'UQAM, puis les contrats, puis tout, c'est absolument pas réglé. Ça fait 3 ans qu'il est dans le dossier. L'UQAM a déjà versé environ 2,7 millions pour que ça se règle, puis ça n'est pas réglé encore. Donc, il est encore sous le dossier, il va encore sûrement récolter de l'argent de fonds publics sur le dos d'une institution qui en aurait bien besoin.
Ouais, mais puis, il travaille.
C'est sûrement une équipe derrière ça qui
se rend compte. Non, c'est tout lui qui fait le job.
Oui, c'est sûr.
Il travaille fort, il n'est pas paresseux, lui.
Non.
Il n'est surtout pas une sangsue.
C'est pour ça qu'il a le temps de venir nous parler puis nous abreuver de son bon savoir.
Tu sais, il n'y a rien qui a changé. Le temps qu'il négociait pour le gouvernement du Québec, il faisait les allers-retours Québec-Montréal en taxi. Fait que,
en taxi?
Oui, il facturait au gouvernement les négociations des années 80.
En taxi?
Ouais,
l'avion, ça y tentait pas.
C'était plus le fun en taxi. C'est, il pouvait voir la route, le paysage.
Il aurait pu le foutre d'une montgolfière et puis le perdre.
Mais là, en tout cas, bref, la STM, la Société de Transport de Montréal, vient de l'engager dans le dossier des wagons de métro. Là, que,
la firme chinoise.
Oui, la firme chinoise et tout. Mais en fait, il était déjà dans le dossier avant que la firme chinoise rentre dans le bateau. Puis, ce serait comme un de ceux qui n'auraient pas pensé comme ça à dire à la STM que s'il augmentait le nombre de wagons que le contrat contenait au départ, là, de 300 à genre 1000, ben ça pouvait peut-être faire en sorte qu'il s'expose à ce genre de poursuites et à ce genre de demandes d'appels d'offres internationaux. Fait que, sauf que là, la STM, ben, c'est pas terminé encore, même que ça commence.
Mais ça recommence.
Ça recommence, c'est ça. Fait qu'il va encore récolter la manne avec son contrat de médiation dans ce dossier-là.
Fait que finalement, si je comprends bien, Lucien Bouchard et son cabinet font un travail de représentation et de négociation pour certaines institutions publiques de l'ordre de 6-7 millions, puis ça, c'est correct, mais le directeur général de la FTQ a surfacturé de 100 000 piastres, puis ça, c'est pas correct.
Ça ressemble à ça.
Coudonc.
C'est parce qu'il y a un plus gros bassin de population au Québec que demande la FTQ.
Ouais,
faudrait ça. Faire un ratio.
Je pense que le ratio, il est quand même perdant, Lucien Bouchard. Ben, il est quand même. En tout cas,
c'est quand même quel côté on se
met. En tout cas, il y en a qui se graissent la patte parce que c'est pas grave. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Parlant de syndicalistes, on en a parlé pas mal dans les médias, mais quand même, ça vaut la peine d'y revenir brièvement. Il y a le Club politique syndicaliste et progressiste pour un Québec libre qui s'est fait montrer la porte en fin de semaine au Parti québécois. On en a parlé un peu partout, mais ce qu'on n'a pas mentionné vraiment, à mon avis, on a parlé de l'histoire dans de la perspective de la direction du PQ. Bernard Landry, qui avait la possibilité de club politique pour couper l'herbe sur le pied de Québec solidaire et tout. Par contre, on n'en a pas beaucoup parlé dans la perspective de la gauche. Puis SPQ Libre, en fait, ça a commencé à l'Autre Journal, premièrement, et c'est vraiment l'échec de la stratégie qui était développée par l'Autre Journal et par une certaine gauche syndicale. Pour faire une histoire courte, d'où ça vient, c'est, bon, l'Autre Journal, on le sait, c'est une publication, entre guillemets, ouvrière, indépendantiste et progressiste. C'est un journal, en fait, c'est le journal d'une certaine gauche syndicale nationaliste. Et c'est un journal qui a eu un comportement politique, disons, erratique au fil des ans. Il était très critique du Parti québécois, puis quand Parizeau est revenu au Parti québécois, qui a donné une espèce de twist social-démocrate, une espèce de twist souverainiste au Parti, ben là, il l'avait appuyé allègrement pendant le référendum et tout. Quand Bouchard est arrivé, le déficit zéro, les conservateurs, retour à une politique plutôt provinciale, disons-le comme ça, l'Autre Journal s'est distancié. Il avait appuyé des gens à l'intérieur du PQ qui essayaient de faire adopter la social-démocratie sur un pied d'égalité avec la souveraineté dans l'article 1 du parti. Ça avait pas marché. Finalement, il s'était tourné vers l'action politique partisane. Puis je sais pas si vous vous en souvenez, il y a Paul Klisch qui s'était présenté au milieu des années 90, à la fin des années 90, en 98, je crois, dans le comté de Mercier, à une élection partielle, et sous la bannière du Rassemblement pour une alternative politique. Et à ce moment-là, il avait fait perdre le comté au PQ. C'était une libérale, là, tu sais, celle avec les cheveux rouges, là, qui s'était fait élire députée de Mercier, qui a été en poste pendant 2 ans. Et dans la foulée de ça, enfin, bon, ils ont lancé des campagnes politiques pour aller chercher une campagne sur le scrutin proportionnel, pour bâtir un regroupement pour une alternative politique. Et à l'élection suivante, celle de 98 justement, ils avaient appuyé le PDS et 6 ou 7 candidatures du RAP. Ça avait été un échec monumental, 1% de la grandeur du Québec. Je pense qu'il y a juste Michel Chartrand dans Jonquière qui avait réussi, mais il se présentait contre Lucien Bouchard, il avait réussi à aller chercher 15, 16, 17%, je sais pas trop. Et de ça... Il y en était venu du côté de l'autre journal avec la, à la conclusion que la gauche serait pas capable de rien faire sans scrutin proportionnel, puis mieux valait squatter un grand parti pour lui faire adopter des positions de gauche que de penser en construire un petit à côté, puisqu'il y avait pas de perspective à court terme de développer quelque chose. Et eux, ils en étaient venus donc à cette position-là, alors que de l'autre côté, les gens du PDS, du RAP, avaient plutôt aimé l'expérience de développer, puis ils avaient lancé un processus d'unité de la gauche. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'est né SPQ Libre. Ils voulaient ramasser des ténors syndicaux. Pendant un bout, ils ont eu du succès à l'interne. Et finalement, là, ils se font montrer la porte. Et donc, c'est, se sont fait démettre. Bon, c'est sûr qu'on peut, pousser l'analyse plus loin, et on le fait sur notre blog d'ailleurs, mais aujourd'hui, on n'ira pas beaucoup plus loin. Sinon, pour dire qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant avec ça, probablement que ça changera rien au spin électoral du Parti québécois qui dit que c'est une coalition large, où est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, où est-ce qu'il y a une certaine gauche et tout. Mais ce que ça démontre, hors de tout doute, c'est qu'il n'y a pas de place pour une gauche organisée à l'intérieur du Parti québécois. Et ça, maintenant, on le voit moins, c'est moins présent que ça l'était, mettons, au milieu des années 90. Mais c'est vraiment une hypothèque qui est levée sur le mouvement syndical, le mouvement social, le mouvement communautaire. Avant, c'était vraiment le PQ qui tenait ça mur à mur. Et là, ça va être de plus en plus difficile. Quand c'est rendu que... Il y a quelques années, là, bon... C'est sorti cette semaine à la presse canadienne qui dit tel dirigeant de la FTQ a donné à la caisse électorale du PQ. Là, c'est un peu une nouvelle disgracieuse pour le PQ, mais il y a quelques années, ça aurait été une fierté de dire que le président de la FTQ avait donné tant, puis que... Mais bon, maintenant, c'est rendu qu'ils veulent même plus qu'ils cotisent parce que c'est problématique. Donc, c'est vraiment une hypothèque pour l'autonomie des mouvements sociaux qui se lèvent et on s'en rend pas compte, là, mais c'est il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là qui va avoir des impacts là, importants. Faudra voir si Québec solidaire va prendre tout le champ laissé libre. Je crois pas. J'espère qu'ils prendront pas tout le champ. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se retrouver à Québec solidaire, c'est évident. Mais peut-être que ça va ouvrir une place à une politique plus autonome et plus combative. Peut-être pas aussi, mais au moins, le PQ, peut-être que le mauvais sort va être brisé. Ceci dit, il y a toujours des nouveaux pour arriver puis dire que c'est pas grave, mais bon. Enfin, je voulais revenir là-dessus. Puis je pense que ça va être tout pour ce bloc-là.
Oui. Oui, et pour revenir avec l'entrevue après.
Oui, on va voir Olivier Poulin du GLBT après. Et en fin d'émission, les nouvelles internationales.
Yes. Moi, j'ai été chercher dans les Boulamites une vieille pièce de I Am avec la pièce « Pourquoi je suis là ».
Vers une pierre, je monte fier, ma gay foulard. Vers une sale prod, où mes verres grippent comme un boulard vert. Ce qui m'importe, c'est que mon mix tape sur mixtape à fond dans le son. Moi, je m'en fous qui se tape ou qui se pète. Pourquoi je suis la cause avec mon statut d'ex-sang. J'ai nos CD, c'est cool, comme les thunes au Vexel Exchange. Pour le flou, non, je crois pas après ces années. Y'a que ça que j'ai fait, frère, je crois qu'au mic, j'ai plus d'années. Rap infini, pack à la vie active, c'est fini. Y'a pas de retour possible, regarde ça. J'ai des mains faites pour le mic, elles sont dans la merde. Pis, je veux pas, sur ta pattern. Je paterne mon bis, je veux pas penser à autre chose que hip-hop. Merci au Bimbao et aux sandwichs qui m'ont nourri. J'ai fait du live sous Tim Dao. Pourquoi je suis là débonnaire alors qu'il y a tant de traître, mec. Je l'ai jamais voulu, le chelem, je suis droit, voilà, je dure et je reste. Ma verve sans cesse prend du poids comme une poule, il gagne en puissance. Comme une poule, je gagne un trophée le dimanche après, jamais ne mori. Comme du hooligan, je reste dans les mémoires comme Mars au cul des hooligans. Entre la pierre et la plume, je forge mes idéaux, des idées dessinées au stylo trip vidé. Voilà, j'en suis là, pourquoi. Dieu seul sait, et le contenu de vécu de ce que mon seul sait.
C'est tout ce qui nous reste, tu vois. Mon main qui n'a le bar de l'âme de Sarbat. Tu vois, on a que ça, on a que ça.
Come on now.
C'est tout ce qui nous reste, tu vois. Mon main qui n'a le bar de l'âme de Sarbat. Tu vois, on a que ça, on a que ça.
Come on now.
job. Vendeur de viande à cerveau, ouais. Des tranches de vie sur tranches de vinyle, le tout clair comme de l'eau de roche. Mes proches le savent, y'a pas de toc dans mes poches. Que des quintos d'acier prêts à chanter s'il y a quelque chose qui cloche. Je suis là pour l'ouvrir quand ça dort dehors dans les ruelles. Crèche des cloches qui n'attendent plus rien du ciel. Un feu de rancœur pour fiel. Je suis là pour dire que Dame Noire a une faux gravée au nom de ceux qui se moquent trop d'elle. Je lève mon verre à ceux pour qui l'occasion fut belle. Et peut-être même trop belle. Passionnelle, les consonnes et les voyelles rendent le réel éternel. Rebelle en selle, je chasse le faux comme l'absurde. J'ai jugé que ça urgeait trop. Conscience à purger. De toute façon, je vois pas ce que tu voudrais me voir faire d'autre. Après 10 ans de pratique, je peux dire que si je stoppe, je saute, c'est net. Je suis là pour mener le truc loin sans me retourner. Le mec drapé de mon coin explosé en un millier de flashs salés. Je suis pas là pour les serpentins, le mot est déchandant. J'essaie d'être bon. Le style s'envole, seul reste le fond. La cime se terre, gare à la pime. Faut que j'oublie la frime, faut pas que je m'abîme avant que mes rimes enfin s'animent. Pour ça, je trime. Je suis pas là pour n'importe quoi et n'importe comment. Comment tu sais pas pour le firmament et rendre fier maman. Je suis là pour mon hip hop, y'a que là que je peux. Y'a que comme ça que je pourrais laisser une trace qui dise que je suis passé.
C'est tout ce qui nous reste, tu vois. Mon mic n'a le bar, de l'âme de ça le bar. Tu vois, on a que ça,
on a plus que ça. Come on now.
C'est tout ce qui nous reste, tu vois. Mon mic n'a le bar, de l'âme de ça le bar. Tu vois, on a que ça,
on a plus que ça.
Rebonjour, toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait et on a avec nous Olivier Poulain, coordonnateur du GLBT Québec.
Bonjour.
Bonjour Olivier. Le GLBT, qu'est-ce que ça veut dire GLBT, juste pour commencer?
GLBT, c'est l'acronyme pour gay, lesbienne, bi-trans. Alors, il existe aussi LGBT là dans le vocabulaire de temps en temps. C'est un peu l'équivalent en français du terme anglais queer, si on veut. Alors, c'est ça, gay, lesbienne, bi-trans. Alors, nous, on s'appelle GLBT Québec, lutte à l'homophobie. C'est pas très original, mais enfin, tout est là. Mais notre nom est un peu imparfait, si vous voulez mon avis, parce que c'est une organisation qui souhaite réunir tout le monde qui lutte, qui veut détruire la discrimination contre les gays lesbiennes ou les gens qui sont identifiés comme tels. Donc, tout le monde est bienvenu dans notre organisation.
Là. OK. Donc, c'est un groupe de lutte à l'homophobie. On pensait que ça allait bien du côté de l'homophobie. Il y a quand même eu des avancées importantes au niveau des droits dans les dernières années, des débats qui se sont faits au Québec, au Canada, des avancées législatives. Puis là, ben là, on revient, on pense que ça va bien. Puis il y a des affaires qui nous tombent d'en face sur les ondes des radios et des télés, notamment dans le cadre là, des Jeux olympiques, sur les ondes de... C'était quoi? C'était LCN, je crois, RDI?
RDS et V, les diffuseurs officiels.
Ah ben oui, c'est ça. Là, toute une série de commentaires homophobes et tout. Puis là, on a envie de se demander, c'est quoi la situation là? Où est-ce qu'on en est avec les préjugés, la discrimination par rapport à la...
Bon, c'est une excellente question. D'abord, j'aimerais rassurer les gens. Nous, on n'est pas de ceux et celles qui disent que tout va mal et puis que, mon Dieu, c'est catastrophique. Hein? Je vous dirais que les gens, les gays lesbiennes en ce moment ici au Québec, là, sont d'abord très contents d'être nés, sont très contents qu'on soit en 2010 hein, et non pas en 1900 quelque chose. Là. Sont contents qu'on soit ici au Québec d'abord. Ils sont probablement contents d'être en ville aussi, là, dans le sens que ça reste que l'homophobie en ville, c'est un peu moins pire qu'en région. Je pense qu'on peut le dire. C'est moins pire au Québec qu'à bien des endroits sur la planète. Le Québec est, et depuis longtemps, un leader par rapport à l'égalité des chances pour les personnes gays lesbiennes. Et c'est ça. Et puis, c'est mieux que c'était. Il y a moins de discrimination qu'avant. Je pense qu'il faut le dire. Il y a du chemin qui a été parcouru. Or, il reste du chemin à faire encore pour que l'égalité théorique et juridique se concrétise sur le terrain en une égalité sociale et concrète. Alors... c'est sûr que, bon, si on se fie aux chartes et compagnie, ici, au Québec, au Canada, on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un en raison de son orientation sexuelle réelle ou présumée, d'ailleurs. Il y a des hétérosexuels qui sont victimes d'homophobie et davantage que moi, comme homme gay relativement masculin, je peux l'être. C'est tout un autre débat, là, des stéréotypes... de genre et compagnie. Très intéressant. On n'a peut-être pas le temps d'aller là, on verra. Mais donc, oui, il y a encore de la discrimination aujourd'hui. Promenez-vous dans une cour d'école et écoutez les commentaires. C'est la meilleure façon de diminuer, de faire sentir inférieur le mâle québécois, c'est de l'associer à l'homosexualité. C'est le traiter de tous les mots qu'on connaît, c'est sûr. Moi, j'ai des amis qui se sont fait refuser des appartements. Je connais des gens qui ont été mis à la porte de leur maison. Leurs parents ont dit, bon, ben, bye bye, c'était comme ça, va vivre ça ailleurs. J'ai un ami dont le père a réagi en traitant sa conjointe d'infidèle, parce que forcément, si son fils était gay, c'était parce que sa femme avait couché avec un autre homme, parce que lui, il pouvait pas engendrer un gay. Alors, ça existe, là, et puis, bon, ça fait juste quelques années en Gaspésie, là. Bon. Bonjour la Gaspésie, là. Il est déjà très ouvert là-bas, sûrement, là. Bon. Mais c'est ça. Donc, c'est mieux que c'était, mais oui, il y a encore des préjugés, et puis je pense que ce que messieurs Mayotte et Goldberg ont laissé échapper au sujet de Johnny Weir, là, en direct, en décrivant le patinage artistique au jeu de Vancouver, c'était ce que plusieurs mononcles avec un petit verre dans le nez disent d'un party de famille de temps en temps, et qui fait beaucoup plus mal à bien des gens que ce qu'ils peuvent croire.
Et ici, on a atteint, ben, tu me corrigeras, là, mais ici on a atteint presque l'égalité juridique. Bon, il reste encore quelques trucs à faire progresser là,
oui,
sur l'adoption des questions comme ça.
Oui,
là, mais sinon,
mais
en gros, on a atteint l'égalité juridique.
Oui, le seul truc qui reste au point de vue gouvernemental, là, c'est le don de sang.
Ah,
la problématique du don d'organes, Santé Canada qui veut pas des organes des gays, les hommes, on s'entend là, à cause d'un supposé risque VIH/SIDA et tout, alors qu'il y a des tests aujourd'hui, tout est béton là, ils veulent surtout plus de scandale du sang là. Alors il y a quelque chose d'incompréhensible là-dedans là, mais il va peut-être avoir des actions prochainement par rapport à ça. Puis on voit des pays aujourd'hui comme la Suède dire que si ça fait un an que vous avez pas eu une relation sexuelle avec un autre homme, vous pouvez recommencer à donner du sang ou des choses comme ça là. Remarquez, tu sais, les mains dans le dos là, c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Là, l'Église catholique nous demande la même chose, puis honnêtement, c'est pas très réaliste. L'Église catholique refuse l'homosexualité, mais accueille les homosexuels. Hein, c'est-à-dire, soyez-le, mais pensez-y seulement, surtout gardez les mains dans le dos. Mais voilà, donc oui, la dernière ici, là, le dernier truc qui reste à régler avant d'avoir l'égalité théorique, l'égalité juridique, ça serait la question du don de sang. Mais c'est sûr que c'est ça. Le prochain défi, c'est de faire en sorte que, concrètement, il n'y en ait plus d'homophobie. Écoutez, il y a encore les femmes gagnent pas ce que les hommes gagnent aujourd'hui. Il y a encore des noirs qui sont victimes de racisme. Alors, comment voulez-vous que l'homophobie soit encore réglée, là?
C'est ça. Un coup qu'on a atteint l'égalité juridique, comment est-ce qu'on fait pour faire avancer les choses? Ou, parce que c'est facile de dire on a des objectifs législatifs et autres, puis on mène des batailles là-dessus, puis à la limite, ça devient une question de rapport de force avec l'État, les politiciens. Un coup que ça, c'est acquis, la poursuite du combat se fait comment?
Ben c'est quasiment l'étape la plus difficile, parce que là, c'est de parler aux gens. C'est de l'éducation populaire, tout simplement, de la sensibilisation. Alors, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des organismes communautaires comme nous qui font ce qu'ils peuvent. Il y a évidemment toute la recherche universitaire qui peut venir aider. Il y a donc le financement d'initiatives.
En quoi la recherche universitaire peut venir aider?
Ben, la recherche universitaire peut amener des réponses à certaines questions qui peuvent ensuite... Je veux dire, on peut publier des études qui vont informer les gens sur les réalités, les droits des gays lesbiennes. On peut faire de la recherche pour voir quelles sortes de moyens de sensibilisation rejoignent le plus les gens et compagnie. Au Québec, là, dernièrement, il y a eu le gouvernement qui a lancé une politique de lutte contre l'homophobie. Donc, c'est ça. C'est vraiment des plans d'action, des façons concrètes d'aller répondre aux questions des gens, parce que a priori, je veux dire, je pense pas qu'il y ait personne. Il y a peut-être certains individus qui ont vraiment une espèce de haine profonde là des gays lesbiennes, mais je pense que grosso modo l'homophobie, ça vient d'une forme de manque d'information, tout simplement là. La peur, la violence est souvent créée par une forme de malaise, et je pense que les gens qui sont homophobes ont pas beaucoup d'informations en fait sur la diversité sexuelle, ont probablement une image très stéréotypée de ce que ça peut être d'être gay ou lesbienne. Alors, s'il faut lutter un peu contre ça, faire de l'éducation. Regardez juste dans les téléromans aujourd'hui, là, les personnages gays sont beaucoup plus nuancés qu'à une certaine époque où ils étaient forcément...
C'est sûr que c'est un peu moins poignet cassé.
Voilà, oui, ils étaient forcément très efféminés. Ils faisaient peut-être des shows drag queen, puis il y avait le sida, là. On est rendu ailleurs, là, quand on regarde juste Belle B, là, c'est pas le meilleur téléroman en ville.
Je sais même pas c'est quoi.
Il y a Pascal Bussière dedans quand même. Mais tu devrais connaître ça, Nicolas, là, ça se passe dans une place où ils veulent, c'est sur le bord de la mer, puis là, il y a une méchante compagnie qui veut venir construire des installations et tout, là, c'est un débat de société fascinant. Mais tout ça pour dire que là-dedans, il y a donc Pascal Bussière, puis l'autre Jean-François, je sais pas quoi, là, puis eux autres, c'est comme des anciens amants qui renouent, et tu sais, c'est comme Roméo et Juliette, mais leurs fils, à chacun, sont en amour aussi.
Oh.
Alors, c'est intéressant, puis c'est deux gars qui sont pas du tout maniérés. Et puis, je pense qu'il y a un personnage de lesbienne aussi là-dedans, là, d'ailleurs, qui a eu un enfant, insémination artificielle avec un gars qui finalement veut être le père et tout, en tout cas.
Bref, c'est tout ça pour vous dire que... de l'éducation.
Non, je pense pas. Mais tout ça pour vous dire que, en tout cas, de ce côté-là, c'est plus nuancé. Faut pas sous-estimer l'influence de la télé.
Clairement. Non, la télé, c'est central au niveau de la construction culturelle.
Kevin Kyle a beaucoup fait pour nous, hein?
Dis-moi, excusez-moi, tu parles d'initiative.
Je déconne, là.
Ben, dis-moi, tu parles d'initiative communautaire. Le GLBT mène des campagnes d'éducation, de sensibilisation à Québec. À Québec, ça a l'air de quoi, là? Le mouvement, il y en est où?
Ben... Nous, on existe depuis quand même 5-6 ans. Ça fait seulement 3 ans qu'on a une forme de structure plus sérieuse, là, en membership, bureau, ligne téléphonique, employés, sous-payés et compagnie. Voilà, une structure, un minimum de... Nous, notre façon de lutter contre les préjugés, c'est de faire donc de l'éducation populaire, mais en occupant le terrain. Il y a d'autres groupes communautaires gays et lesbiennes qui se chargent de faire de la défense des droits individuels, par exemple, du counseling juridique un peu, qui font du développement international. Il y en a d'autres qui vont aller dans les commissions au gouvernement faire des pressions plus politiques. Il y a un groupe comme le Gris Québec qui offre un local qui est comme un peu une maison des jeunes où il n'y a pas d'homophobie, donc c'est une place où on peut aller et être soi-même. Il y a aussi, le Gris va dans les écoles, fait de la démystification de l'homosexualité. Mais nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'événementiel, c'est-à-dire on occupe l'espace public à quelques reprises dans l'année, l'espace médiatique aussi, pour rappeler aux gens qu'on est là, qu'on existe, qu'on a des droits et tout, et pour les amener à avoir une image plus vraie de la réalité.
Donc,
pour
la fête arc-en-ciel.
Et concrètement, oui, il y a la fête arc-en-ciel, notre événement phare, qui est toujours la fin de semaine de la fête du travail. Voilà, cette année, c'est les 3, 4, 5 septembre. Alors, on parle d'un événement qui se passe beaucoup en Hauteville, dans Saint-Jean-Baptiste, à Place Diouville et tout. C'est toujours très intéressant. On a aussi le Festival Alternar, qui cette année a lieu du 4 au 16 mai. Alors, c'est un festival des arts de la diversité sexuelle. Alors, ça veut se servir de l'art, de la culture pour aller sensibiliser les gens. Et ça offre aussi à des artistes, qu'ils soient gays ou pas, de s'exprimer sur le thème de la lutte contre l'homophobie. Et il y a
qu'ils soient gays ou pas.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un festival d'art...
Thématique. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre de l'avant des œuvres à thématique gay. Mais à thématique diversité sexuelle, là, c'est-à-dire homoparentalité, bisexualité...
Mais l'orientation de l'artiste, vous en foutez. Voilà.
Ben, c'est ça. De toute façon, je veux dire, on demande pas aux gens leur carte de fifon, là. ça existe pas, hein. Alors, je veux dire, il y a peut-être des gens qui font semblant ou pas, ou je sais pas, là. Mais non, nous, on n'a pas de carte de membre. Non, on demande aucune preuve. Remarquez peut-être que j'aimerais, à défaut de gagner cher, des fois, faire quelques auditions pour voir si les gens peuvent devenir membres, mais bon, c'est une autre question. Alors oui, c'est un festival thématique. On accueille tous les artistes qui ont du talent et qui nous offrent des œuvres intéressantes sans aucun égard donc à leur orientation sexuelle, évidemment. Et bon, il y a la journée contre l'homophobie aussi, qui existe à l'échelle internationale le 17 mai de chaque année. À Québec, cette année, c'est samedi le 15 mai qu'on va faire une activité. Cette année, le thème, d'ailleurs, c'est le sport.
Vous avez pris le virus syndical?
Que voulez-vous dire?
C'est-à-dire, ben, faire la journée, c'est le 17, mais on va faire le samedi le plus proche, un peu comme le 1er mai.
Oui, en quelque sorte, oui, j'ai pas compris l'allusion, là, mais oui, ben, d'abord, nous, les deux dernières années, c'est le samedi qu'on avait fait nos activités. Et il faut savoir que la journée contre l'homophobie au Québec, c'est organisée par la Fondation Émergence, qui, elle, va faire le gros de ses communications le vendredi 14. Alors, nous, direct le lendemain à Québec, on marche de l'Assemblée nationale jusqu'à l'anneau devant le musée, là, sur les plaines d'Abraham. Alors, on va marcher grande allée.
Manifestation.
Intéressant. Marche de solidarité, voilà, et tout. J'ai parlé à l'agent Imbeau ce matin de la police de Québec qui m'a confirmé qu'on avait le droit, alors tout va bien. Nous, on publie aussi un journal communautaire sur la diversité sexuelle, et non pas un média gay, j'insiste, c'est pas la même chose. Il existe des médias gays, par exemple le magazine Fugue, pour lequel moi je suis collaborateur pour la région de Québec. Mais donc, et ce qui est un média donc par et pour les gays, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et nous, le journal Sorti, on le distribue à beaucoup d'autres endroits qu'au centre-ville et les lieux gays ou gay-friendly. Et c'est un journal qui s'adresse vraiment aux gens qui veulent en savoir plus sur la réalité de la diversité sexuelle. Alors, c'est pas un magazine qu'on cherche à distribuer ou vendre en ayant, par exemple, un beau garçon torse nu et musclé en page couverture. D'ailleurs, c'est moi qui fais la prochaine page couverture, alors ça vous montre que on n'est pas dans cette optique-là. Mais
c'est un sportif, celui-ci.
Oui. La dernière édition, en fait, c'est un clin d'œil, là, parce que c'est Alex Perron en joueur de hockey. C'est le visuel officiel de son spectacle, Un gars, c'est un gars.
OK.
Alors, c'est une entrevue avec Alex Perron. Je vois que ta grande culture gay a échappé à Alex Perron de ce côté-là. Mais donc, oui, c'était un clin d'œil là, à son spectacle, et en même temps, une façon de traiter de la question de la diversité sexuelle et du sport en couverture de notre journal. Là. Parce qu'évidemment, le Johnny Weir n'existait pas vraiment avant. La prochaine édition du journal là, qui va être mise en ligne et distribuée le 15 avril, a pour thème donc notre festival alternaire qui s'en vient. L'édition suivante à la mi-août va parler de la fête d'arc-en-ciel, et l'édition de la dernière édition de l'année là, vers la mi-novembre, va traiter de Internet. Donc, toute la question de la viguer sur Internet, les sites de rencontres et tout, mais aussi quels sites existent par rapport à la lutte contre l'homophobie et compagnie.
Et donc, si les gens veulent se tenir au courant de vos activités, la meilleure façon, c'est de lire le journal.
Oui, évidemment. Malheureusement, il sort juste 4 fois par année, mais bon, on est présent, nous, comme groupe GLBT Québec, évidemment, sur Facebook. On a un site web, glbtquebec.org. Donc, les gens peuvent aussi lire, évidemment, les magazines gays pour se tenir un peu au courant sur tout ce qu'on organise. Et ben, quand on fait des événements comme la fête d'arc-en-ciel, on réussit à avoir quelques médias généralistes qui s'intéressent à nous. Je vous remercie de l'invitation ce soir, d'ailleurs, là, d'être à Sakaïa avec vous au micro.
Pendant qu'on y est, on va couper ce cours bientôt parce que, bon, c'est ça la vie.
On est limité.
Faut aller se coucher, là. Passe-partout est fini.
Oui, mais ceci dit, t'aurais-tu quelque chose à rajouter de précis que je t'ai pas laissé la chance de dire?
Honnêtement, ça me vient pas vite comme ça. Non, je suis content. J'apprécie l'invitation. Radio-Canada, on a 2 minutes et demie, on est content. Puis là,
C'est bon.
Vive le communautaire, voilà.
Voilà, d'accord. Donc, c'était Olivier Poulin du GLBT Québec que vous pouvez retrouver sur le web à
glbtquebec.org.
Et vous écoutez Voix de Fée, puis on s'en va en musique avec quoi?
Oui, avec Sergent Garcia qui nous chante que l'équilibre est fragile.
Et on va revenir avec nos nouvelles internationales.
La situation difficile, la vie d'un prince n'a pas s'il peut espérer. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Camina con cuidado, te vas a perder. L'équilibre est fragile, la situation difficile. Cuidado, cuidado, cuidado. Il y a toujours maman qui pète les plombs, qui vivent leur vie comme dans une mauvaise fiction. Dans leur quotidien, trop d'exclusion, trop de pression. Un jour ou l'autre, ils se laissent glisser vers le fond. Ici-bas, la vie, mon frère, n'est pas couleur rose bonbon. On ne te fait pas de cadeaux, ce n'est pas la télévision. Ici-bas, le crime paye, tout le monde le sait. Que ce sont bas des cités dans les couloirs de l'Elysée. Tout le monde se croit fort, tout le monde se croit invincible. Tu fonces droit dans le décor. Ta folie ne tient qu'à un fil. L'équilibre est fragile, la situation difficile. No puedes con candela que te puedes quemar.
L'équilibre est fragile, la situation difficile.
La vie d'un instant facile, puedes perder.
L'équilibre est fragile, la situation difficile.
Camina con cuidado, te vas a perder.
L'équilibre est fragile, la situation difficile.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Je vis dans un monde où la réalité se mêle à la fiction. Les gens vivent leur rêve et leur vie par procuration.
Hey, vous êtes toujours à CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Et là, on est rendu dans l'autoboot international. Et il y a Janine qui fait l'autoboot international.
Juste ça, je parlais du Conseil de l'éducation du Texas qui a révisé les manuels d'histoire, qui a décidé de mettre l'accent sur les héros de la droite religieuse. C'est une décision controversée qui pourrait avoir des répercussions partout aux États-Unis. En fait, ça, qu'ils disent que, ben, une des conséquences de ça, c'est que Reagan sera vu comme un des architectes de l'Amérique moderne, tandis que le New Deal de Roosevelt sera relégué au rang de fin de chapitre. Genre, c'est un des exemples, là. Puis, aussi, ils ont décidé de rayer le fait que les États-Unis ne sont plus une démocratie, mais plutôt une république constitutionnelle. Puis aussi un passage de la liberté de religion qui a été retiré. Puis ça a été décidé par dans ce conseil-là, dans le fond, c'est majorité de républicains. Puis ils ont été adoptés à 10 voix contre 5. Puis ça, c'est que ce curriculum-là, ça va être appliqué pendant 10 ans, puis ça touche directement 4,7 millions d'élèves. Puis l'approbation finale des changements doit être faite en mai. Puis dans le fond, ça a vraiment... Ça a vraiment choqué, dans le fond, des démocrates qui étaient faisaient partie de ce conseil-là, parce qu'il y en a une qui Hélène Berlaga, j'ai eu la misère avec, c'est ça, représentante démocrate qui est partie de la salle en colère, j'en ai vu assez, ça me suffit. Ça disait que le but du conseil était de prétendre que l'Amérique était une nation blanche, puis qu'il y avait, personne d'autre qui avait sa place, donc, puis qu'il y en avait une autre, puis elle avait dit aussi qu'elle était membre du conseil depuis 1982, puis qu'elle avait jamais vu ça, dans le fond.
Ouais. Ça va pour ça?
Oui.
On a assez parlé du Texas.
Du bonbon.
Ouais, non, mais c'est... Écoute, on fait ce qu'on veut avec les curriculums d'histoire et de sociaux et tout, là, je veux dire... Quand même, c'est choquant.
Le révisionnisme est à la mode.
Oui. Hey, parlant de révisionnisme... Non, ça n'a pas rapport avec le révisionnisme, mais quand même, si vous allez sur notre blog, vous allez tomber sur différentes nouvelles en lien avec le 15 mars, la Journée internationale contre la brutalité policière.
Le révisionnisme policier.
Lundi, oui, le révisionnisme policier. En fait, on a ressorti quelques images pour montrer que finalement, les provocateurs sont pas toujours ceux qu'on pense, les violents non plus. Et on voit entre autres des agents provocateurs qui se font expulser de la manifestation.
Manu Militari.
Ouais, ben en fait, ils se font crier des noms jusqu'à temps qu'ils s'en aillent, là, concrètement. Et c'est en fait une dizaine d'agents provocateurs policiers. On voit aussi une photo de ce qui ressemble à des Black Blocs en train d'arrêter un gars en chemise, mais en fait, c'est des flics qui sont en train d'arrêter un manifestant.
Ouais, mais je me suis demandé si ce manifestant-là, étant honnête citoyen jusqu'à preuve du contraire, avait tabassé les deux personnes qui essayaient de l'arrêter. Tu sais, c'est deux personnes cagoulées qui te sautent dessus. Tu fais quoi? Tu te défends?
J'en ai aucune idée. Mais c'est ça, enfin. Bon, bref, toujours est-il, je voulais revenir à ça. Si vous voulez voir ça, bon, il est sur notre blog, à Voix de Fait avec un X et un S, .blogspot.com. Il y a des choses qui se passent, là, par rapport à toute cette chose-là. Mais ce que je voulais revenir, c'est sur le fait que, bon, c'est réjouissant, là, de réussir à identifier des flics qui infiltrent des manifs puis à les sortir et tout et tout. Mais il y a quand même... Il faut quand même souligner que personne n'est à l'abri de l'infiltration, en fait. Et je voulais attirer l'attention des auditeurs et puis des lecteurs du blog aussi. J'ai mis les liens sur le blog sur une affaire qui fait beaucoup de bruit en Grande-Bretagne en ce moment. C'est un ancien policier qui s'est confié aux médias sur son rôle en tant qu'agent infiltré dans le mouvement antifasciste radical au début des années 90. Alors, on parle pas d'une infiltration brève, là, le temps d'une manifestation, d'une opération rapide pour démanteler un groupe. On parle d'une infiltration qui est étalée sur 4 ans. 4 ans à se battre contre les FAF et la police, à vivre 24 heures sur 24, 6 jours par semaine, au milieu de gauchistes, sous une fausse identité. En fait, c'est l'existence d'une unité de la police londonienne qui s'appelle la Special Demonstration Division, la division spéciale de manifestation, qui existe depuis 1968, qui aurait été démantelé au tournant des années 2000, mais qui, d'après le policier, est probablement toujours en opération. Et cette unité-là, en fait, cette division de la police londonienne. Le seul et unique but, c'est de colliger de l'information sur les mouvements radicaux violents. Et c'est en 1968 qu'ils se sont rendus compte, la police londonienne, après des éruptions de violence de radicaux, que s'ils connaissaient bien le Labour, s'ils connaissaient bien les groupes communistes, s'ils connaissaient bien les syndicats, ils connaissaient pas la nouvelle gauche, et ils connaissaient pas les nouveaux mouvements. Et donc, ils se sont mis en place une politique d'infiltration profonde, de deep infiltration, en fait. Et il y avait une dizaine d'agents qui étaient connus comme étant les Harrys, parce qu'il y avait des cheveux, contrairement aux autres flics. Et donc, qui étaient chargés d'infiltrer tout groupe qui émergeait comme étant un groupe politique radical violent ou à potentiel violent. Alors, au tournant des années 90, là, on parle pas des années 60, 70, 80, au tournant des années 90...
C'est même plus la guerre froide.
Non, c'est même plus la guerre froide, on parle de 92, 93, il y a une surchauffe au niveau de l'antifascisme, parce que t'as le British National Party, d'un côté, Combat 18, et de l'autre côté, t'as The Militant, Anti-Fascist Action, Class War, des groupes qui, finalement... en viennent à des clashs de rue entre groupes, et où il y a vraiment de la violence somme toute importante qui se manifeste, et la police donc est appelée à infiltrer ces groupes-là, et l'agent en question a infiltré en profondeur une organisation liée à The Militant Youth Against Racism and Hate and Racism in Europe. Et donc voilà, c'est tout ça qui est expliqué en long et en large sur le site du Guardian, où on explique que finalement ces agents-là étaient infiltrés dans le but de fournir de l'information pour finalement couper l'herbe sous le pied aux mouvements radicaux, pour que la police soit toujours une coche avant dans l'information, pour qu'elle puisse prévenir la violence et les troubles dans les rues. Et le seul et unique but de la police londonienne, c'était de garder le contrôle de la rue, d'éviter tout débordement. Et donc, dans ce contexte-là, les agents n'avaient pas à monter de preuves pour des procès, n'avaient pas à faire attention. Comme il n'y avait pas de procès, comme le but c'était pas de démanteler le groupe, comme le but c'était juste d'être présent finalement, puis d'être au courant, puis autant que possible d'atteindre même des positions de leadership. On a vu des policiers infiltrés qui étaient rendus trésoriers nationaux des organisations qui contrôlaient, secrétaires. Et même la question s'est posée à la police à un moment donné, jusqu'à quel point est-ce qu'on n'est pas en train de contrôler les organisations qu'on est supposé d'espionner. Mais bon, en tout cas, ça c'est un autre débat. Mais donc, les agents étaient appelés à étaient appelés à faire tous les actes nécessaires pour crédibiliser leur couverture. Comme ils étaient censés, comme c'est des agents infiltrés très profondément, s'il fallait qu'ils commettent des actes de violence, ils le faisaient. S'il fallait qu'ils consomment, ils le faisaient. S'il fallait qu'ils entretiennent des relations amoureuses, ils le faisaient dans le milieu en question. Et même, on leur fournissait une couverture complète, là. C'est-à-dire qu'on prenait quelqu'un qui était décédé, jeune, on reprenait ses papiers et on lui refaisait une vie pour pouvoir l'infiltrer dans des milieux pour que ce soit absolument impossible de le démasquer. Et comme ces gens-là, finalement, commettaient effectivement des actes répréhensibles selon la loi, ils étaient jamais inquiétés, parce que à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir un soupçon sur eux, t'avais 15, 20, 30 personnes qui s'étaient battues aux côtés de cette personne-là, qui pouvaient dire « Non, non, c'est pas un flic, ça, là. Je veux dire, je l'ai vu cogner un faf en sang et des choses comme ça. » Et donc, il faut vraiment lire ça puis aller voir ça. C'est très inquiétant. Et ça pose des questions, en fait, sur jusqu'où va la police. Et même le flic en question est ressorti de là avec un... il a été diagnostiqué stress post-traumatique et il en est venu à la conclusion que finalement, pour protéger la démocratie, il était en train de la vider de sa substance complètement. Et c'est pour ça que maintenant, il sort là-dessus.
Pour le protéger d'elle-même.
C'est ça. Et donc, c'est à voir sur notre site, voix de fait avec un X et un S, .blogspot.com. Vous avez des liens vers les articles du Guardian et vers une entrevue vidéo d'une dizaine de minutes là-dessus. Très troublant. Et il faut savoir que, même aujourd'hui, tu sais, des fois, bon, ça, c'est des choses quand même... c'est assez lourd là comme infiltration et tout, mais il y a des choses plus anodines qui nous arrivent par la voie des médias, et entre autres, pour vous donner une idée, ça se continue, ce genre de choses-là, de façon plus anodine, on le dira, mais le FBI veut être votre ami Facebook, semble-t-il, et on s'est rendu compte, le Electronic Frontier Foundation aux États-Unis, qui est un groupe de défense des libertés individuelles, une espèce de groupe libertarien finalement, ils ont obtenu un document du FBI, un PDF, qui indique que les agents du service de renseignement américain sont présents sur Facebook, Twitter, MySpace, Link, LD, puis en fait... Non, Linked Ellen, excuse. Mais bon, toujours est-il que il se crée des fausses identités pour pouvoir espionner les gens. Et de plus en plus, on voit ça, là, des amener en preuve, en procès, des trucs de Facebook et tout ça. Et puis ben, c'est ça, la simple mesure de sécurité là-dessus. Faut s'organiser pour savoir, en fait, qui sont les personnes qui nous demandent notre amitié. Ça peut nous éviter du trouble. Mais c'est sûr que quand t'es rendu à 1755 amis, puis que t'es vite sur le piton pour les accepter, ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, bref, tout ça pour dire que la police nous surveille. Faut pas virer parano puis complètement fou par rapport à ça, mais c'est une réalité. Et c'est sur ces sages paroles que je vais mettre fin à mon micro. Mais il y a Jeannie qui voulait rajouter un truc.
C'est par rapport à ce que je parlais tantôt, c'est que l'influence du Conseil de l'éducation du Texas sur une grande influence dans le fond par rapport au manuel scolaire, parce que les éditeurs ils se fient à leurs exigences pour l'élaboration de leur manuel scolaire, qui ont ensuite vendu des millions d'exemplaires aux États-Unis.
C'est super. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait cette édition de Voix de fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. C'était Nicolas en compagnie de...
Jeannie.
Et Farouk.
Passez une belle semaine sur les ondes de CKIA et merci à Olivier Poulin d'avoir participé à l'émission.